moyens, sans rien, sans même parler la langue, loin de ses racines, loin de son pays. On se dit, est-ce que ça pourrait être plus compliqué ? Est-ce que ça pourrait être pire ? Ben oui, ça pourrait, parce qu'elle ne se sent pas très bien, donc elle consulte un médecin, le médecin cherche et il trouve, elle a un cancer. Voilà donc ce que cette amie a dû affronter à l'entrée dans sa vie d'adulte, alors qu'elle se trouve là, déracinée, sans repère, sans famille, sans amis. Et la vie, parfois, est faite ainsi. Parfois, les mauvaises nouvelles tombent les unes après les autres. On n'a pas le temps de digérer la première, qu'il y en a trois autres qui se sont ajoutées par-dessus. Et on se demande combien de temps, combien de fois la vie va continuer à nous frapper comme ça, à s'acharner sur nous, à nous laisser sans répit. Et on ne comprend pas. Et franchement, ce n'est pas facile de tenir dans ces moments-là. Et je ne suis pas sûr que le verset qui dit que Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos forces soit d'une grande consolation quand on est au cœur d'épreuves terribles, dévastatrices, quand on voit tout son monde s'écrouler autour de soi. Le cumul de certaines épreuves, effectivement, semble peser plus que ce qu'on est capable de supporter. On va voir un texte ce matin qui, je crois, nous parle un petit peu de ça. C'est le premier texte d'une série, parce que c'est une série qui va se poursuivre jusqu'à Pâques, sur le livre de Ruth. Donc on va ouvrir nos Bibles en Ruth 1. On va commencer par le début, puis normalement on finira par la fin. Donc aujourd'hui c'est Ruth 1, et on va lire les 5 premiers versets. Si, ce ne sera pas affiché, donc si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre dans vos Bibles. Mais avant de lire le texte, je vais prier. Seigneur, nous l'avons dit plusieurs fois, tu es un phare dans nos vies, tu es la lumière du monde qui nous guide dans l'obscurité. Et tu le fais notamment et avant tout au moyen de ta parole que nous nous apprêtons à ouvrir maintenant. Je te prie qu'il en soit ainsi pour nous aujourd'hui, en particulier pour ceux qui peut-être sont dans des ténèbres épaisses, où ils ne te voient pas, où ils ne t'entendent pas. Seigneur, merci parce que dans ta parole, on est loin de trouver que des gens pour qui tout va bien. On trouve aussi des gens pour qui tout va mal. Et nous avons à apprendre d'eux dans ta manière d'agir avec eux. Je te prie pour que ce soit le cas, pour que ceux qui aujourd'hui ne te voient pas, ne t'entendent pas, puissent te reconnaître dans leur vie. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Alors, les 5 premiers versets de ce livre de Ruth nous disent ceci. Au jour où les juges gouvernaient, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour séjourner en immigré au pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, le nom de sa femme Noémi et le nom de ses deux fils Malon et Kilion. Ils étaient Éphratites de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent au pays de Moab et ils y vécurent. Puis Élimélec, le mari de Noémi, mourut et elle resta seule avec ses deux fils. Ceux-ci épousèrent des Moabites. Le nom de la première était Orpa et le nom de la seconde Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Malon et Kilion moururent aussi tous les deux, et la femme resta seule, privée de ses deux enfants et de son mari. Voilà, texte court, dense. Il nous résume une bonne dizaine d'années de vie en 5 versets. Et même si on le lit un peu rapidement, on s'aperçoit quand même que le panorama n'est pas terrible. Et en fait, c'est pire que ça, parce qu'en fait, il y a rien qui va dans ce texte, absolument rien qui va, rien que le début déjà, où il nous est dit « au jour où les juges gouvernaient ». Imaginez que je commence une prédication par « à l'époque du gouvernement de Vichy, vous savez a priori que ce qui va suivre ne va pas être fantastique à entendre ». Eh bien là, c'est un peu pareil, parce que la période des juges, ce n'est pas une période fantastique en Israël, c'est une période d'instabilité, de révolte, en particulier de révolte contre Dieu, qui se solde toujours de la même manière, c'est-à-dire avec le peuple qui crie à Dieu dans sa misère, Dieu qui envoie des libérateurs, les juges, et puis, voilà, le peuple, chaque fois un peu plus corrompu, retombe dans sa misère, crie à Dieu, Dieu envoie un juge, etc. Et plus on avance dans ce texte, plus la corruption est grande. Les derniers chapitres sont un festival d'ignominie avec des pratiques idolâtres, des massacres de population, le viol de masse d'une pauvre jeune fille qui va se retrouver découpée en morceaux et envoyée aux 12 tribus d'Israël, on en est là. Ce qui se termine par une guerre civile où la tribu de Benjamin est quasiment exterminée. Et donc, pour rattraper le coup, parce que quand même, il se désole que cette tribu soit quasiment manquante aux 12 tribus d'Israël, ils n'ont pas d'autre idée que d'aller kidnapper des jeunes filles à donner aux Benjaminites pour que la tribu puisse renaître de ses cendres, en massacrant au passage la population. Alors, quand on lit tout ça, on se dit ça respire pas trop la civilisation, quoi. Et tout au long de ces chapitres, en particulier les derniers chapitres, revient ce refrain comme une litanie. En ces jours-là, il n'y avait pas droit en Israël, chacun faisait ce qui lui convenait. C'est comme ça d'ailleurs que se termine le livre des juges, c'est sur cette phrase-là. En ces jours-là, il n'y avait pas droit en Israël, chacun faisait ce qui lui convenait. Une autre manière de dire chacun faisait n'importe quoi. C'est l'ambiance dans laquelle vit Élimélec, son épouse Noémie et leurs deux enfants. Et comme si ça ne suffisait pas, une famine survient. Et eux, ils habitent à Bethléem. Vous savez ce que ça veut dire, Bethléem ? Moi, je ne savais pas. Ça veut dire la maison du pain. Il y a une famine à Bethléem. Il y a une famine, donc, dans la maison du pain. Il n'y a plus de pain dans la maison du pain. Si Bethléem s'appelle comme ça, c'est parce que la région est fertile. La famine, ce n'est pas quelque chose d'habituel par là-bas. C'est pour ça que c'est la maison du pain. On s'attend à ce qu'il y ait du pain dans cette maison. Eh bien là, il n'y en a plus. Donc l'épreuve est probablement assez inattendue. C'est le genre de truc qu'on voit venir, mais on n'y croit pas trop. Comme tant d'autres épreuves de la vie qui peuvent nous tomber sur le coin du nez, des épreuves personnelles, la perte d'un emploi, le décès d'un proche, ou des épreuves collectives, une pandémie au hasard qui nous oblige à nous confiner. Que devient notre foi ? C'est un peu la question que pose ce texte, je crois. Que devient notre foi quand il n'y a plus de pain dans la maison du pain ? Quand ce qui devait être sûr, quand ce sur quoi on s'appuyait, on pensait que c'était ferme, que ça tiendrait bon, disparaît. Le pain, la sécurité, la famille, la santé, vous mettez ce que vous voulez derrière, la démocratie, enfin tout ce que vous voulez. Est-ce qu'on reste ferme ? Est-ce qu'on reste ferme dans notre foi dans ces moments-là ? Est-ce qu'on continue dans ces moments-là de faire confiance au Dieu d'Israël ? Est-ce qu'on se tourne vers lui pour chercher notre secours ? Élimélec, en tout cas, lui, ne se tourne pas vers le Seigneur. Élimélec va choisir l'exil, il va emmener sa famille au pays de Moab. Et quand je vous dis qu'il n'y a rien qui va dans ce texte, c'est que ça non plus, ça ne va pas. Se tourner vers Moab, c'est pire que de ne pas se tourner vers Dieu, c'est clairement s'en détourner, parce que Moab, pour tout juif qui se respecte, ce n'est pas exactement l'endroit où on a envie d'aller vivre. D'abord, c'est un royaume qui est issu d'un inceste, celui de Lot avec sa fille aînée, donc ça démarre déjà pas hyper bien. C'est l'enfant né de cette union désapprouvée par Dieu qui a fondé ce royaume. Moab, c'est aussi un ennemi historique d'Israël. En Nombre 22, versets 1 à 6, on voit par exemple ce fameux épisode de Balak, qui est roi de Moab, qui va faire tout ce qu'il va pouvoir pour convaincre le prophète Balaam de maudire Israël. Il ne va pas y arriver. À la fin, ce qu'il obtiendra, c'est une bénédiction. Ça lui apprendra. Et c'est enfin un royaume avec lequel Dieu demande aux Israélites de ne pas se mélanger. En Deutéronome 23, versets 4 à 6, on lit que l'Ammonite et le Moabite n'entrent pas dans l'assemblée du Seigneur. Même leur dixième génération n'entrera pas dans l'assemblée du Seigneur. Il en est ainsi pour toujours. Et donc c'est là, à Moab, que Élimélec décide d'aller avec sa famille, d'installer sa famille. Alors on peut se dire, oui, mais bon, c'est contextuel quand même, il y a une famine, il faut bien faire quelque chose. Et on pourrait imaginer qu'ils vont en Moab de manière temporaire le temps que la crise passe. Et c'est même ce que suggère un petit peu le texte au début quand il emploie le terme « séjourner ». Ils vont séjourner en Moab. Mais ce qu'on voit aussi dans ce texte, c'est qu'en fait, ils y vécurent. Donc, ils s'installent. Peut-être qu'ils y partaient avec l'intention de juste d'y rester quelque temps, mais en fait, ils s'installent. Et ce que ça trahit, c'est que Elimelech se désolidarise du peuple d'Israël. Il prend ses distances avec le peuple élu. Il s'imagine s'en sortir tout seul, ailleurs, loin de ses frères et sœurs, loin de sa communauté de foi, et surtout, loin du Dieu d'Israël. Alors c'est vrai que la situation va mal, c'est vrai qu'il n'y a plus de pain dans la maison du pain, c'est vrai qu'on est là dans une période de crise, mais chaque période de crise, c'est l'occasion de distinguer ceux qui vont se tourner vers Dieu pour trouver une porte de sortie et ceux qui vont lui tourner le dos. Et Elimelech, là, clairement, va tourner le dos au Dieu d'Israël. Le proverbe qui dit qu'en ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël et que chacun faisait ce qui lui convenait, s'y est tout particulièrement à Elimelech. Il est de ceux qui ont oublié que Dieu prend soin de son peuple et il n'hésite pas à aller s'installer en territoire ennemi pour y faire sa vie. Mais vous l'avez lu, sa vie, elle ne va pas durer bien longtemps. Elle va être de courte durée, Elimelech va mourir. Alors il y en a qui voient là un signe du jugement de Dieu. Je ne sais pas, je ne me prononce pas trop là-dessus. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que Noémie et ses deux fils, eux, ne voient pas là un signe du jugement de Dieu, puisqu'ils ne vont pas se repentir, ils ne vont pas revenir à Bethléem. Ils vont s'y installer encore plus. Les deux fils de Noémie vont épouser des femmes de la région, des Moabites, Orpa et Ruth. Et les deux fils aussi vont mourir. Bien que 10 ans se soient écoulés, ils n'ont pas eu d'enfants. Et ça aussi, c'est assez singulier pour être noté, parce qu'un enfant dans la Bible, c'est toujours, toujours une bénédiction. On a un peu l'impression que cette infertilité de la terre de Bethléem, cette maison du pain qui n'avait plus de pain, s'est transformée en infertilité de la famille elle-même en terre moabite. Ils n'ont pas d'enfants, les époux meurent, le panorama est assez désolant. Je trouve que ça fait écho un peu avec le livre de Job, à ceci près que Job, lui, est resté intègre. Job qui perd tout, ses richesses, ses enfants, sa santé. Et cet écho montre que ce n'est pas une histoire isolée, en fait. Il y a des drames existentiels dans nos vies. On les voit dans la Bible, mais on les voit aussi parmi nous, autour de nous. Des moments où on n'a pas seulement une mauvaise passe, un moment difficile à passer, pas seulement un souci financier, mais où vraiment tout est balayé, tout est bouleversé en profondeur dans nos vies. Ce sont des choses qui arrivent. C'est arrivé à Noémie. Elle est partie avec son mari et ses enfants de Bethléem vers un avenir qu'elle espérait meilleur, évidemment. C'est arrivé à mon amie arménienne, qui est arrivée ici aussi en espérant un avenir meilleur. Et l'une comme l'autre se sont retrouvées seules, isolées et sans ressources. Dans le paysage de Noémie, il n'y a plus que ses belles filles, Orpa et Ruth. Et elles sont guère mieux loties qu'elles, puisqu'elles sont veuves elles aussi, à ceci près qu'elles sont quand même plus jeunes et qu'elles sont du pays. Ruth, pour l'instant, n'est qu'un nom au milieu du désastre. On ne devine encore rien de la suite. Et de fait, je pourrais arrêter la prédication ici. J'ai fait exprès de m'arrêter à ces 5 premiers versets sans ouvrir sur la suite, parce que si on ouvre sur la suite, effectivement, au verset suivant, on entend parler du Seigneur et on se dit « Ah, ça y est, il y a un petit signe d'ouverture là, il y a une petite lumière qui a l'air de poindre, on commence à parler de Dieu ». Mais il me semble que la vérité, c'est que ça, c'est le grand privilège de celui qui a l'ensemble de l'histoire devant les yeux. Quand on vit les choses dans l'instant, on n'a pas la suite. Ce qu'on a, c'est la désolation d'un Job qui perd effectivement ses richesses, ses enfants, sa santé, et qui n'a pour seul soutien que sa femme, qui vient lui suggérer de maudire Dieu et de mourir. C'est un conseil qui envoie un autre. Et 3 amis qui essayent de lui expliquer sur près de 40 chapitres que ce qui lui arrive, c'est quand même un petit peu de sa faute, quoi. Et parfois, c'est comme ça que ça se passe dans nos vies. Et ça s'arrête là. Et on se dit, et Dieu, il est où? Il est où dans ces histoires? Il est où dans ces 5 premiers versets? Vous le verrez dans le livre de Ruth, Dieu n'est pas très présent. La plupart du temps, il est là comme l'objet de conversation. On parle de lui, mais il n'est pas beaucoup présent comme sujet, c'est-à-dire comme acteur de l'histoire, comme on peut le voir par exemple dans le livre des Rois ou des Chroniques, où on voit Dieu agir. Là, on ne voit pas trop ce qu'il fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Mais dans ce livre, on doit le discerner dans les événements, dans les rencontres, dans les circonstances. Et je trouve que c'est un livre, du coup, qui est fait pour ceux qui se disent « Mais moi, je n'entends pas le Seigneur, moi. Moi, je ne le vois pas, le Seigneur. » Il y a des gens dont on a l'impression qu'ils ont vraiment une ligne directe. Le matin, ils décrochent le téléphone de la prière, et puis Dieu leur parle. Et c'est vrai, Dieu peut parler comme ça, mais Dieu parle aussi beaucoup en creux, en empreinte. On voit sa trace comme des traces de pas dans la neige fraîche de nos vies, et on se dit « Tiens, ça a l'air d'être par là. Dieu est passé par là, et je vais marcher dans ses pas. » Même dans ces 5 premiers versets, on peut se demander si Noémie n'avait rien à entendre dans l'événement de la mort de son mari. Alors, je sais que je marche là sur un terrain très glissant et je vais prendre les précautions d'usage en disant que je crois qu'il faut éviter absolument une lecture spiritualisante de tous les événements de la vie, en particulier concernant les événements douloureux de la vie. Je lis en ce moment le livre d'une maman chrétienne qui a perdu 3 de ses 4 enfants. Et je ne résiste pas à l'envie de vous partager ce qu'elle dit au sujet du sens de la souffrance, parce que je crois que c'est très juste. Elle dit ceci, « Je ne dirai jamais que la souffrance a un sens, même à l'aune de la foi. Elle est un mystère qu'aucune croyance ne saurait justifier. Elle est insensée et la mort est un scandale. La seule réponse à lui apporter, c'est l'amour. » Ça n'est pas une réponse au pourquoi ou au pourquoi en deux mots, c'est-à-dire quant à sa raison d'être ou à son but, mais c'est la seule riposte à l'épreuve elle-même. Car l'amour est le sens de la vie. Nous vivons pour aimer et pour être aimés. Nos bonheurs appellent l'amour pour nous conforter dans la certitude d'être aimés. Nos souffrances réclament l'amour pour nous réconforter par la certitude d'être aimés et d'être aimés d'un amour plus grand que nous, plus grand que tout, d'un amour inconditionnel. Et ensuite, elle parle de cet amour qui l'a rejointe dans sa souffrance après la mort de ses deux filles. Et elle dit, « Alors que l'horizon se recouvrait d'un manteau de deuil et que mon cœur se déchirait, j'ai ressenti un amour infini contenir ma plaie. Et tout au fond de moi résonnait cette consolation. Je suis là et je t'aime. Alors mon âme s'est apaisée sans que je cesse de pleurer. » On dit souvent dans l'épreuve que le ciel nous tombe sur la tête. J'ai eu le sentiment qu'il descendait jusqu'à moi sans fracas. Dans ce moment, où la souffrance m'a privée de toute force, où jamais je ne me suis sentie aussi douloureuse, vulnérable, meurtrie, misérable, indésirable, j'ai expérimenté l'amour sans condition et sans limite. Et cet amour ne me quittera jamais. Je sais désormais que je suis aimée quoi qu'il m'arrive et quelles que soient mes peines, mes errements, mes doutes et mes faiblesses. Ma foi, dit-elle, reconnaît le nom de cet amour, celui qui ne chasse pas la souffrance, mais l'accompagne de sa présence. Mon travail de fin d'études à la fac de théologie de Barcelone, je l'ai fait sur la question de l'origine du mal. Et c'est pour ça que je ne saurais pas être plus d'accord avec cette femme. Évidemment qu'on peut trouver du sens à la souffrance parfois, mais déjà pas toujours. Mais surtout, quand on essaye de se questionner vraiment sur l'origine, si on essaie de remonter à la source, d'où vient le mal, quand on se penche sur la question, très vite, en fait, on tombe dans la spéculation. Si on s'en tient à la Bible, ce que la Bible dit, c'est d'abord, elle n'explique pas le mal, elle ne l'explique pas autrement que par l'entrée du péché dans le monde. On vit dans un monde déchu où le mal existe. Alors après, on peut se poser des tas de questions sur « oui, d'accord, mais pourquoi le mal existe ? Pourquoi Satan ? Pourquoi ?» Et en fait, on commence là à spéculer, à aller au-delà de ce que la Bible elle-même nous dit. Essayer de remonter au-delà de cette affirmation est vain. De telle sorte que la Bible, en fait, nous amène rapidement dans la sphère pratique. Et moi, c'est aussi ce que j'aime. Il y a quelque chose qui est mystérieux, c'est Henri Blocher qui parle de la question du mal comme du mystère obscur. Il y a des mystères qui sont lumineux dans la Bible, celui-là est un mystère obscur, c'est ce qu'il dit lui. Mais on arrive du coup dans la sphère pratique. Et du coup, la question, c'est pas tant d'où vient le mal, mais quelle réponse je lui apporte ? Quelle réponse est-ce que j'apporte au mal dans ce monde ? Et la réponse de Dieu au mal, effectivement, comme le dit cette femme, c'est l'amour. L'amour manifesté en son Fils Jésus-Christ, qui ne s'est pas soustrait au mal, mais qui l'a vécu dans ses extrémités et qui nous rejoint dans notre malheur et nous donne une espérance. Alors, qu'est-ce qu'aurait pu entendre Naomi ? Je vais avoir du mal à me mettre à sa place, mais peut-être qu'elle aurait pu entendre, dans le vide laissé par la mort de son époux, l'appel du Dieu d'Israël qui veut combler ce vide par l'amour qu'il donne, lui, par la sécurité qu'il offre, lui, et qu'ils ont quitté, tous ensemble, en famille, pour aller s'installer loin de lui. Peut-être qu'elle aurait pu entendre un appel au retour à Dieu. Et nous, qu'est-ce qu'on peut entendre de cette histoire ? Déjà, on peut entendre la même chose, peut-être, si on passe par les mêmes circonstances. Et puis, on peut peut-être aussi entendre que c'est jamais une idée géniale de s'éloigner du Dieu de la vie. La rébellion a toujours des conséquences. La rébellion nous rattrape, elle nous fait souffrir. Et par ricochet, elle fait aussi souffrir ceux qui nous entourent. Alors, ce n'est pas très, très gai comme prédication. Donc, je vais ouvrir l'horizon maintenant. Je ne vais pas vous laisser, dans le noir. Il est certain qu'Élimélec n'a pas fait le bon choix, que son éloignement du Dieu d'Israël a eu des conséquences terribles pour lui et pour sa famille, des conséquences irréversibles en fait. Mais si le livre de Ruth ne s'appelle pas le livre d'Élimélec ou de Noémie, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a là, pour l'instant ça n'est qu'un nom, mais il y a là une jeune femme, une Moabite, dont on pourrait ne rien attendre. Elle ne fait même pas partie du peuple de Dieu, elle fait même partie d'un peuple auquel Dieu a dit « surtout ne te mélange pas à lui ». Et cette femme va renverser le cours de l'histoire de la vie de Noémie, pour commencer, le cours de l'histoire du peuple d'Israël, pour continuer, et en fait le cours de l'histoire du monde. Et elle n'en saura jamais rien elle-même, parce qu'en fait il va falloir des siècles pour pouvoir le voir. Et là encore, ainsi en est-il de nos vies. Nous passons par des catastrophes, parfois du fait de nos propres fautes, parfois du fait que nous vivons dans un monde déchu, mais le plan de Dieu ne cesse pas de se dérouler pour autant. Et notre problème, c'est qu'on voit le monde par le tout petit côté de la lorgnette. On a une vue qui est tellement partielle, un peu comme si on jugeait de l'ensemble d'un puzzle de 5000 pièces à partir de la seule pièce que nous avons dans la main. Il est peu probable qu'on tombe juste. Peu probable qu'on tombe juste. Alors, je voudrais que vous sachiez que mon amie a rencontré le Seigneur. Et un jour, elle est venue à l'église, cette jeune fille arménienne. Et quand elle est entrée dans l'église, c'est son oncologue qui était au piano pour conduire la louange. Ce n'est pas lui qui l'avait invitée, je précise. Donc évidemment, elle a été assez surprise, touchée, là encore, de voir Dieu la rejoindre dans sa vie elle-même. Et quand elle priait, je ne comprenais rien de ce qu'elle disait, parce qu'elle priait en arménien, dans sa langue, mais sa voix était tellement profonde, son attitude était tellement douce, tellement consacrée, tellement apaisée dans les circonstances qui étaient les siennes, qu'il était évident qu'elle n'était plus seule. Quelqu'un se tenait à côté d'elle, et ce quelqu'un lui disait « Je suis là et je t'aime ». Alors peut-être qu'un jour je vous raconterai la suite de son histoire qui est, comme celle de Noémie, un appel à la confiance en Dieu dans l'épreuve. Peut-être qu'il semble absent, peut-être qu'on n'entend pas sa voix clairement, mais peut-être aussi que dans cette saison hivernale de ta vie, tu peux observer, si tu regardes bien, si tu te rends attentif, ses pas dans la neige fraîche. Il n'y a plus de pain dans la maison du pain, mais il est lui-même le pain qui nourrit, il est lui-même la source qui désaltère. Et quoi que tu traverses, quelles qu'en soient les raisons, Dieu ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas exclu de son plan. Et il se peut même que tu en sois une pièce maîtresse et que tu n'en sauras jamais rien avant de voir Dieu face à face dans l'éternité. C'est ce que cette histoire nous raconte. Mais dans cette attente glorieuse, toi, garde la foi. Et cette semaine, dans ta prière, je te propose de dire à Dieu, voilà ma famine, voilà mon exil, voilà ma douleur, et demande-lui la grâce de voir ses pas dans la neige de ta vie. Je vais prier. Seigneur, il est des lieux de nos vies et des moments de nos vies où, franchement, tu sembles absent, où on ne comprend rien de ce qui se passe autour de nous, où on a du mal à interpréter les événements, et peut-être même ne faut-il pas les interpréter, peut-être que simplement ce qui nous arrive parce que nous vivons effectivement dans un monde où le péché existe, dans un monde déchu, où la douleur est là, où la souffrance est là. Mais nous l'avons chanté, nous l'avons affirmé, tu es un phare dans les ténèbres, tu es cette colonne de feu qui se lève dans la nuit, tu es cette nuée qui se lève dans la journée pour nous guider. Seigneur, probablement que il y a des moments dans nos vies de forte cécité où nous ne te voyons pas. Pas parce que tu n'es pas là, mais parce que nous sommes aveuglés par la douleur, par la souffrance, par la peine, par les soucis qui s'accumulent et qui accaparent notre pensée, notre esprit. Seigneur, je te prie de faire cette grâce à tous ceux qui sont dans cette situation-là aujourd'hui, dans cette salle, de pouvoir te voir cette semaine. Alors peut-être pas face à face, peut-être pas entendre ta voix comme on peut l'entendre parfois dans le secret de nos cœurs, mais au moins, Seigneur, dans la manière dont toi tu marches dans leur vie et tu laisses des traces de ton passage, des moments où ils pourront voir que tu es là, que tu es présent, que tu as marché devant eux dans cette même douleur qu'ils traversent, qu'ils puissent trouver là non seulement une espérance pour les temps à venir, mais aussi le pas suivant à faire dans leur propre vie, qu'ils puissent voir où est-ce que tu les emmènes, peut-être pas le bout du chemin, mais au moins ce pas suivant dans la neige, où ils pourront mettre leurs propres pieds dans la confiance que toi tu es là, que tu les tiens dans ta main, que tu n'en as pas fini avec leur histoire de vie et que ton plan est un plan qui nous dépasse tellement, Seigneur, qu'on ne voit pas toujours où tu veux nous emmener, mais on sait qu'on est dans ta main. On a cette assurance ferme. Tu as envoyé ton Fils qui a souffert ici-bas, sur cette terre, pour un plan qui était merveilleux. Et nous voulons croire qu'il en est de même de nos vies. Dans les moments joyeux comme dans les moments pénibles, nous voulons croire que nous sommes partie intégrante de ton plan, quel que soit ce qui nous arrive. Et Seigneur, nous te faisons confiance. Nous attendons ce jour glorieux où nous boirons le fruit de la vigne avec toi dans ton royaume. Et dans cette attente-là, Seigneur, simplement, nous voulons marcher dans tes pas. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.